Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
C'est ce voisin qui tombe la pelouse un dimanche matin, ce marteau-piqueur, ou encore cette voiture qui démarre en trombe à 3h du mat. Les agressions sonores en ville sont partout autour de nous. Troubles du sommeil, risques cardiovasculaires, stress. Pour 2 Français sur 3, le bruit est un problème. Alors c'est grave, docteur, et comment faire du bien à mes oreilles? Aujourd'hui dans Univox, Radio Campus Besançon pose la question à 3 chercheurs. Ils sont au micro d'Aurélien Bertini.
Univox.
Aujourd'hui, autour du plateau, Hélène Houot, bonjour.
Bonjour.
Donc, maître de conférences en géographie et aménagement à l'Université de Franche-Comté au laboratoire Théma, ça va?
Oui, c'est ça.
Sophie okay. Pujol, bonjour.
Bonjour.
Donc, ingénieure d'études et de recherche clinique au laboratoire Chrono-Environnement.
J'effectue mes activités de recherche au sein du CHU, donc Centre Hospitalier Universitaire de Besançon.
Et également Ali Yassine El Ayouch, bonjour.
Bonjour.
Donc post-doctorant au sein de l'Institut FEMTO-ST dans l'équipe phononique et microscopie.
Tout à fait.
On a envie déjà tout de suite de savoir ce que c'est.
Moi je suis dans une équipe en plus particulièrement phononique et microscopique qui étudie notamment la propagation des ondes, donc notamment acoustiques, dans des matériaux artificiels, entre autres des cristaux phononiques ou bien des métamatériaux acoustiques à partir desquels on a lancé un projet de création d'entreprise.
Vous l'avez compris, on va parler d'acoustique et de sons dans l'espace. On a l'habitude d'avoir des sons peut-être qui sont pour nous agréables à l'oreille ou désagréables. Quels sont pour vous un son agréable ou désagréable? Je vais peut-être commencer avec vous, Hélène. Wow. Si je vous parle d'un son agréable, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit?
Le chant des oiseaux ou la musique.
Et un son désagréable?
Le bruit de la circulation. Et là, vous voyez que j'utilise le terme bruit, puisqu'effectivement, c'est la terminologie qui est usuellement adoptée lorsqu'on veut parler des sons qui ont un impact plutôt négatif, donc qui sont à la fois perçus généralement négativement, mais qui ont également un impact sur la santé qui est reconnu. On est dans du domaine de l'acoustique, on est dans du domaine de la santé, de la perception, de la psychoacoustique. On est souvent dans des groupes de recherche pluridisciplinaire. La recherche pluridisciplinaire, c'est quelque chose qui est incontournable aujourd'hui, mais ça l'a toujours été pour la géographie.
Parce que Sophie Pujol, vous avez écrit une thèse en 2012 sur le bruit environnemental en milieu urbain, c'est ça?
Oui, exactement. Oui. Donc ça a été le premier projet qu'on a fait en commun entre Théma et Chrono Environnement et avec FEMTO également. Alors, on cherchait à mettre en évidence un lien entre très forte exposition au bruit et diminution des résultats scolaires. Donc, en fait, on s'est intéressé à toute une population d'élèves scolarisés en école primaire, en classe de CE2. Et à l'époque, on avait des évaluations scolaires, donc un examen qui était passé en début d'année de CE2 qui permettait de mesurer les acquis, enfin, quelles étaient les connaissances, les compétences des enfants en français et en mathématiques. Et pour chaque enfant, en fait, on allait chercher, on a calculé le niveau sonore auquel il était exposé à son domicile, donc pendant la nuit, ou alors à l'extérieur de l'école. Donc là, on s'intéressait au bruit environnemental, donc comme le disait Hélène tout à l'heure, donc tout ce qui est bruit de circulation routière, circulation ferroviaire. On a aussi trouvé quelques sources, comme les rues piétonnes, hein, parce que dans une rue piétonne, il y a des piétons, donc il y a des gens qui s'expriment, il y a des bruits de talons, il y a des bruits de valises à roulettes. Et donc ça, en fait, ça contribue au niveau sonore.
Donc ça veut dire que vous avez pris chaque enfant, j'ai envie de dire, presque, vous avez une grille après d'évaluation, enfin, ça se passait comment?
Oui, alors en fait, la principale méthode qu'on a utilisée, c'est la cartographie du bruit, donc avec un outil qu'on appelle Mitrasig. Donc il y a un logiciel qui permet de calculer un niveau sonore théorique à partir de plein d'informations différentes. La première information, c'est la caractérisation de l'espace. Donc en fait, on reconstitue en 3 dimensions la ville, donc avec l'emplacement des bâtiments, l'emplacement des routes. Ensuite, la deuxième étape, c'est de caractériser les sources sonores en elles-mêmes. Donc, où elles sont et qu'est-ce qu'elles émettent. Donc, une petite route sur laquelle circuleront 50 voitures par jour n'aura pas la même émission qu'une route qu'un boulevard avec 15 000 véhicules par jour. Donc, à chaque tronçon routier, on affecte une circulation, un nombre de poids lourds, par exemple, et une vitesse. Et puis, donc, le troisième élément indispensable à la cartographie du son, c'est la prise en compte des lois de propagation du son dans l'espace. Donc, c'est le logiciel qui est paramétré en ce sens, sachant qu'on prend en compte quand même les phénomènes météo spécifiques au lieu, au site d'étude. Donc, à partir de tous ces éléments, on a réussi à calculer un niveau sonore qu'on appelle un niveau sonore de long terme, donc en extérieur du bâtiment. Et nous, on a fait le choix de vraiment d'aller au plus proche, puisque pour chaque enfant, on a eu accès à l'adresse d'habitation et on a distribué à chaque enfant des questionnaires qui permettaient de savoir sur quelle rue la chambre de l'enfant donnait. On a réussi à calculer vraiment le niveau sonore à 2 mètres en façade de cette chambre.
Et la population, c'était combien d'enfants ?
Alors, on a contacté 900 enfants, donc l'ensemble des élèves de CE2 scolarisés dans les écoles primaires publiques de la ville.
Et qu'est-ce qu'il est apparu alors ?
Alors, on a quand même réussi à mettre en évidence un lien entre exposition à des niveaux sonores élevés et diminution des performances scolaires. Ce lien, il marchait à la fois en fonction du niveau sonore à la maison et en fonction du niveau sonore à l'école, puisqu'on avait étudié ces deux paramètres.
Niveau donc, sonore y compris des membres de la famille, par exemple, le papa parle trop fort.
Alors ça, on n'a pas réussi à l'estimer pour l'ensemble des enfants. Par contre, sur un échantillon de 50 enfants chez qui, en fait, on est allé à leur domicile, on a posé des micros, donc un micro à l'extérieur en façade de la chambre de l'enfant, un micro à l'intérieur de la chambre, et puis un troisième micro intérieur, cette fois dans la pièce principale de l'habitation. Donc généralement, c'était le salon, la pièce dans laquelle l'enfant passait le plus de temps.
Donc un micro qui va mesurer les décibels, c'est ça,
simplement ? Oui, tout à fait, oui, un sonomètre.
Un sonomètre.
Oui. Et donc, c'était vraiment une mine d'informations, puisqu'on avait 7 jours de mesure. Donc on laissait un premier jour qu'on n'exploitait pas, c'était simplement le temps pour que la famille s'habitue à la présence de ce micro. Donc on avait pris soin de cacher dans une lampe.
Oui, parce que peut-être la première semaine, on se tait.
Voilà.
On a l'impression qu'on nous enregistre. Alors
Oui, en plus, il y avait des élections à ce moment-là. Non, mais on n'enregistrait pas les conversations.
Par contre, voilà, ça n'enregistre pas les conversations, c'est juste le niveau sonore.
Voilà, le niveau sonore. Et donc, à partir de ces enregistrements, donc, on a pu connaître le niveau sonore pour certaines périodes. Généralement, on a travaillé sur les périodes jour, soir et nuit, qui sont les périodes habituellement étudiées, qui s'inscrivent dans la réglementation de la directive européenne, notamment. Et on a également distribué des questionnaires, donc questionnaires très précis, ce qu'on appelle un budget espace-temps, qui était quelque chose de colossal. Et je remercie les familles qui ont pris le temps de le faire, parce que, en fait, par tranche de 30 minutes, il fallait renseigner quelles étaient les sources sonores à l'intérieur du logement qui fonctionnaient. Donc, on allumait la radio, il fallait cocher radio à telle heure, etc. En fait, on a réussi à mettre en parallèle le niveau sonore avec les informations du questionnaire et à essayer de prédire un niveau sonore dans le logement en fonction du niveau sonore à l'extérieur et puis en fonction des sources qui sont présentes.
Donc, ça se recoupait. Ça, c'était cohérent, l'ensemble était cohérent.
Oui, parce qu'en fait, nous, on s'intéressait au lien entre bruit et scolarité, mais il n'y a pas que le bruit qui fait qu'un enfant va avoir des bonnes notes ou pas. Il y a toutes des caractéristiques socio-économiques, le contexte familial, le niveau d'études de la mère, etc.
Alors, vous l'avez compris, le lien aussi que nous avons fait aujourd'hui, c'est comment peut-on faire, peut-être, quand on est exposé au bruit, pour le réduire. Et c'est là que je me retourne vers Ali Yassine El Ayaouch, donc qui est post-doctorant au sein de l'Institut FEMTO-ST et qui donc a notamment créé une start-up qui s'appelle MetaAbsorber.
Elle est en cours de création.
En cours de création. Qui a notamment vocation à proposer des isolants hyper puissants. C'est un peu ça qu'on peut dire ou
on pourrait le dire comme ça. En fait, le projet de recherche déjà, à partir duquel on a commencé ce travail, il était aussi lié à une problématique qu'on a rencontrée dans la ville, l'installation des lignes de tramway. Et à cette époque, mon directeur de thèse, Abdelkrim Khalif, qui est directeur de recherche au CNRS, il avait justement proposé un appel à projet de la région pour répondre justement à cette problématique, sachant que lui était spécialiste dans ce domaine en fait, des cristaux phononiques et des métamatériaux. Et c'est là où j'ai commencé ma thèse. Et l'idée, c'était de se poser la question comment on pouvait arriver à développer des matériaux artificiels qui permettent de répondre justement à ces problématiques, mais avec des performances qui sont beaucoup plus élevées et du coup un encombrement aussi qui est moindre, parce qu'en général, en fait, pour répondre à ce genre de problématiques, on utilise des matériaux qui ont en soi des propriétés intrinsèques d'absorption, par exemple. On pense à la laine de roche qu'on peut utiliser lorsqu'on construit sa maison ou des mousses, tout simplement. Et nous, on se demandait comment on pouvait faire en sorte qu'un matériau, a priori, qui n'a pas ces propriétés-là, puisse les avoir simplement en structurant l'objet. Et c'est là toute la magie en fait, de ce domaine, c'est qu'en structurant, en donnant une forme en particulier à des objets, on arrive à créer de nouvelles interactions entre l'onde acoustique, donc le son, le bruit, quand on considère qu'il est gênant, et la matière, du coup, le matériau à partir duquel on... Et du coup, on a réussi à développer des modes de structuration qui permettent de faire que du béton, du bois, de l'acier, n'importe quel matériau puisse devenir beaucoup plus performant en termes d'absorption sonore que de la laine de roche, et ce, à des fréquences beaucoup plus basses. Par exemple, on le sait que certaines sources de bruit toutes les sources de bruit ne sont pas les mêmes de manière générale, et chacune a sa signature, chacune a sa signature spectrale, et c'est ce qu'on disait, par exemple, c'est ce qu'a essayé de faire Sophie quand elle a essayé d'inciter les occupants de la maison à cocher des cases pour identifier les sources de bruit. Et nous, en fait, on s'est intéressé notamment à pouvoir développer des matériaux artificiels, structurés, qui puissent répondre à des performances en termes d'absorption à des fréquences beaucoup plus basses.
Voilà, et donc ça, quand vous dites à sa signature, ça fait référence quoi, aux aigus, aux graves?
Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un son, de manière générale, ma voix, est composée de la contribution de plusieurs fréquences pour donner le son et le timbre que vous entendez. Et là, du coup, nous, on s'est intéressé à des fréquences qui sont problématiques parce qu'en fait... Quand vous parlez par exemple des fréquences aiguës ou des fréquences graves, il faut savoir qu'à chaque fréquence correspond des longueurs d'onde. Et on sait que pour des fréquences qui sont très graves, donc à très basse fréquence, on a des longueurs qui sont très très grandes, qui peuvent être centimétriques, voire métriques. Et là, pour avoir des matériaux qui puissent répondre à ces fréquences-là, il faut avoir des matériaux qui soient très épais, ou bien très dense, très, très lourd. Et là, en fait, on peut le voir dans l'industrie, ou dans les transports, ou à la maison, des fois, c'est pas possible.
En tout cas, on va faire une première pause musicale, et j'espère qu'elle sera agréable pour vos oreilles, auditeurs et auditrices.
Univox. Univox.
Oh,
rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
On continue à explorer le son et peut-être ses problématiques sur la santé dans cette émission. Et puis ses solutions, on en a déjà parlé en première partie. Un son devient bruit peut-être quand il dépasse un certain niveau sonore.
Oui, qu'il dépasse un certain niveau sonore et que, comme je le disais tout à l'heure, du coup, qu'il a un impact reconnu sur la santé. Donc, il y a effectivement une dimension psychologique. L'un des effets reconnus, c'est la gêne subjective. Donc là, il y a énormément d'enquêtes qui ont été faites et qui ont mis en relation cette gêne subjective avec des niveaux sonores. C'est une sorte d'expression qui synthétise toute une série de perturbations, on va dire, que vous avez dans votre quotidien et que vous associez clairement, on va dire, à votre environnement sonore.
Et surtout puis, peut-être aussi c'est quelque chose qui apparaîtra tout à l'heure, une question que je vous reposerai, mais évidemment on est de plus en plus exposé à différents matériaux sonores qui peut-être nous perturbent davantage. Hein. On va mettre la radio plus forte parce que peut-être y a le frigo qui crache un peu ou Internet qui est par là. On y reviendra tout à l'heure, mais je reviens à vous, donc Sophie Pujol, pour les résultats, les premiers résultats de ce travail.
Oui, alors donc ce qu'on a mis en évidence, c'est donc un effet du niveau sonore principalement à l'école sur les résultats obtenus en français. Donc en fait, plus un enfant est exposé à un niveau sonore élevé, et moins ses résultats scolaires sont bons, en tout cas en français. La relation, on l'a retrouvée également sur la note de français avec le bruit à l'extérieur du domicile. Et puis par contre, pour ce qui est du bruit, du bruit du domicile et du résultat en mathématiques, en fait, là, on n'a pas réussi à mettre de lien en évidence. Il y a des explications. En fait, ce ne sont pas les mêmes mécanismes cognitifs qui sont impliqués dans les mathématiques ou dans le français. En fait, les mathématiques, c'est plutôt des tâches répétitives, hein, c'est beaucoup d'automatisme. Et on sait que le bruit n'intervient pas, ne joue pas énormément, ne va pas perturber des tâches qui sont très répétitives et très automatiques. Par contre, pour tout ce qui est du français, il y a des processus plus complexes. Enfin, c'est vraiment l'association entre le son et l'écrit.
Et puis, j'imagine qu'il y avait des paliers dans votre travail aussi, c'est-à-dire jusqu'à quel point on pourrait être finalement empêché par un son sans que cela nous perturbe sur nos résultats.
En fait, c'est difficile de répondre à cette question parce que il y a plein de phénomènes qui vont compenser l'effet du bruit. Enfin, le fait qu'on soit très exposé au bruit, mais qu'on soit dans une famille où le niveau socio-économique des parents est élevé, est fortement lié à la réussite des enfants à l'école.
Alors peut-être qu'on a la solution justement à tout ce vacarme de la ville. Avec Ali Yassine Alayouche, donc pour tout ce travail que vous faites sur l'acoustique, essayer d'améliorer, on va dire, la qualité isolante des matériaux. Et vous me parliez en antenne tout à l'heure d'une application que vous allez.
Que nous sommes en train.
Que vous êtes en train de créer.
Que nous sommes en train de développer. Et, ça repose sur l'une des particularités des structurations et de la technologie qu'on a brevetée, qui est de pouvoir fonctionnaliser, si j'ose utiliser le terme, ou donner à n'importe quel objet une propriété acoustique qu'il n'avait pas à la base. Et ça, en fait, ça nous a donné l'idée de pouvoir travailler sur n'importe quel type de matériaux. Et là, on a pensé au mobilier, parce qu'actuellement, le mobilier, une table par exemple, telle qu'on la connaît, une armoire, ne participe pas au confort sonore. Et lorsque les gens dans une pièce font du bruit, les ondes sonores, en fonction des fréquences où cela s'opère, peuvent être tout simplement réfléchies sur chacune des parois et contribuent en fait à un niveau sonore global qui peut être gênant. Et c'est vrai qu'au bout d'une certaine durée d'exposition, et avec certains niveaux d'exposition, c'est vrai que les personnes qui sont dans la pièce, les occupants de la pièce, peuvent subir de la gêne et peuvent même à un moment donné ressentir de l'anxiété, du stress et même être impactés sur leur productivité. Et nous, en structurant les objets, en structurant en fait les matériaux qui constituent ces objets, on peut faire en sorte que les armoires, les chaises, les tables, les bureaux contribue au confort acoustique.
Alors vous ouvrez un vaste champ là, et évidemment on parle mobilier, mais on peut aller beaucoup plus loin, extrapoler peut-être.
C'est ça, l'idée en fait ce serait de penser à étendre le principe à celui d'une ville. Parce qu'on est, de nos jours, on parle beaucoup de bâtiments connectés, on est dans l'ère du numérique, et on a des bâtiments qui peuvent communiquer entre eux ou bien recueillir des informations sur tout ce qui est propriété thermique, propriété acoustique, pourquoi pas, mécanique. Et l'idée, justement, et la force que peut apporter justement ces métamatériaux acoustiques, c'est de pouvoir justement agir différemment sur la propagation des ondes dans la ville. Par exemple, quand on est sur une voie piétonne ou sur un axe marchand, en fait, la rue se comporte un petit peu comme un guide d'ondes. Et donc, en fait, lorsqu'il y a beaucoup de monde, le son est simplement guidé à travers ce guide et les gens subissent tout ce bruit. Et l'idée, ce serait de faire en sorte que les parois, les murs, les objets même qui constituent l'environnement urbain, donc le mobilier urbain, pourquoi pas, et même les voitures, parce que 60% quand même du bruit provient des transports dans un environnement urbain, même une voiture pourrait contribuer au confort sonore de la ville et faire en sorte que ce soit plus agréable de vivre, de marcher et de travailler dans ces environnements.
Est-ce que selon vous les villes ont déjà commencé cette réflexion dans leurs différents travaux pour intégrer justement l'impact d'un son?
Alors par rapport à ça, c'est vrai que nous, géographes, on travaille effectivement sur les liens que peut avoir l'urbanisme, le développement urbain, comme le disait Sophie tout à l'heure, et l'environnement acoustique. Disons que la législation impose de ne pas exposer la population à plus d'un certain nombre de décibels, comme vous le disiez tout à l'heure, lorsque, par exemple, on crée une nouvelle infrastructure de transport. Voilà, il y a des obligations réglementaires qui font que les aménageurs sont obligés, de toute façon, de créer des murs anti-bruit, de créer une voie en dévers, etc. Donc ça... Dans un certain nombre de cas, oui, de toute façon, on est obligé. Après, les collectivités vont plus ou moins loin, les aménageurs vont plus ou moins loin par rapport à la prise en compte de ces problématiques-là, selon un peu leur sensibilité. Et là, j'ai des cas, j'ai des exemples dont je pourrais vous parler d'agglomérations qui... intègrent dans leur plan local d'urbanisme, qui essaient d'intégrer ces dimensions-là. Alors, l'agglomération de Dunkerque a décidé de créer un zonage spécifique. Le PLU, c'est des zones. Là, vous avez le droit d'urbaniser. Là, c'est déjà urbanisé. Et les règles sont différentes selon le zonage. Un zonage zone calme. Donc des zones qu'ils vont préserver. Et aujourd'hui, c'est beaucoup par le biais de cette thématique des zones calmes que les aménageurs vont plus ou moins loin, effectivement, dans la prise en compte de cette dimension sonore dans l'aménagement de leur ville.
Ça veut dire qu'il y a toujours des acousticiens qui sont invités, avec lesquels on travaille?
Ouais, alors du coup, ça veut dire qu'on développe des approches là, pour le coup, qui vont être à la fois acoustiques. Une zone calme, réglementairement, c'est aussi en France une zone qui est située à moins de 55 décibels en niveau sonore moyen jour, soir, nuit. Et ces zones calmes sont identifiées par non seulement des acousticiens, mais généralement également par des psychologues, des architectes. Enfin, voilà, c'est des approches un peu pluridisciplinaires puisqu'il y a une dimension sensible, là, pour le coup, de l'environnement sonore qui est généralement introduite. D'une manière générale, c'est des approches qui sont combinées avec l'amélioration de la prise en compte de la nature en ville. Voilà. Et là, ça me permet de rebondir sur une autre question que je voulais aborder, la notion de cadre de vie, puisque finalement, on se rend compte que dans le cadre vie, dans la satisfaction de notre environnement résidentiel, on ne dissocie pas la dimension visible du paysage et la dimension sonore. Et donc, on développe aujourd'hui des recherches qui vont permettre de mieux comprendre comment ces deux dimensions se combinent. Est-ce qu'il y a des phénomènes de compensation? Est-ce qu'il y a des phénomènes de cumul? C'est des choses, aujourd'hui on parle beaucoup de densification urbaine pour réduire toute une série d'impacts négatifs de l'étalement des villes. Mais il faut bien avoir à l'esprit que si on construit une ville complètement minérale, qu'on entasse les gens les uns à côté des autres, ça peut avoir des effets contre-productifs par rapport à l'objectif recherché de contenir quand même une diversité de population dans le cœur des villes. Donc voilà, c'est des thématiques, ces problématiques de mobilité.
Elles sont plutôt marginales ou est-ce que maintenant elles s'imposent ?
Le sonore, globalement, a tendance à être un peu le parent pauvre aujourd'hui des approches, notamment en aménagement. Parce que aujourd'hui, ce dont on parle, c'est les problématiques d'économie d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre, et le sonore a tendance à être un peu éclipsé.
C'est vrai, l'acoustique, c'est le parent pauvre hein, depuis à chaque fois qu'on veut lancer une construction ou qu'on a un plan en tête. Et effectivement, ça a un coût. Parce qu'en France, le Conseil national du bruit a émis une statistique qui est qu'en France, rien qu'en France, chaque année, le coût social du bruit est de 57 milliards d'euros. Parce que ça a un coût, parce que ça a un impact tout simplement sur la santé, parce que ça a un impact sur la productivité des entreprises, parce que ça influe sur nos choix. Je veux dire, les gens n'achètent pas des appartements au prix fort à côté d'axes routiers très fréquentés. Et donc, ça, c'est une chose auquel les pouvoirs publics, je pense, sont de plus en plus conscients et essaient de prendre en compte dans leur réglementation, dans les lois qui sont délivrées. Et je pense que c'est très positif.
On a parlé pollution sonore, mais on aurait pu aussi parler qualité sonore. En quoi, des fois, le son peut aussi aider à avoir des bienfaits sur un bâtiment? Enfin, j'imagine qu'il y a des études qui existent là-dessus.
Oui, mais ce phénomène, il est utilisé, par exemple, en urbanisme, où on va placer une fontaine à vasque. Donc, comme ça, on aura le bruit de l'eau qui masquera le bruit de la circulation routière, par exemple.
Ce qu'on appelle des oasis sonores. D'accord. C'est la ville de Bilbao qui a développé de manière un peu systématique dans ces quartiers, ce qu'ils appellent des oasis sonores. Ça c'est étudié, c'est beaucoup étudié, et c'est vrai que c'est peut-être une ouverture sur laquelle on peut finir.
Je vais vous remercier donc tous les trois d'être venus à notre micro. Donc Hélène Houot, merci. Donc maître de conférence en géographie aménagement à l'Université de Franche-Comté au laboratoire TEMA. Sophie Pujol, merci à vous d'être venue. Donc ingénieure d'études et de recherche clinique pour le laboratoire chrono-environnement et
le CHU de Besançon.
Merci à vous.
Et Ali Yassine Alayaouche, donc post-doctorant au sein de l'Institut FemtoST. Et je terminerai par vous, puisque tout à l'heure, je ne vous ai pas posé la question, vous êtes le dernier. Un son agréable pour vous?
Sophie l'a cité, moi j'avais à l'esprit le ruissellement de l'eau.
Et un son plutôt désagréable à votre oreille?
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais je dirais, lorsqu'on fait des manips et des caractérisations, le bruit blanc. Je ne l'aime pas.
Merci d'avoir suivi cette émission Univox, préparée cette semaine depuis le studio de Radio Campus Besançon, par Aurélien Bertini et Cécile Pollard. Prenez soin de vous et de vos oreilles. Univox.